Dernière station avant mutation. Voyage musical, images sonores, vibrations corporelles et bien plus encore. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dernière station avant mutation. En cette période d'Halloween, quand les portes s'ouvrent sur le monde des morts et des esprits, j'ai envie de partager quelques musiques de films d'épouvante. Des films qui m'ont marqué lorsqu'à l'adolescence, ou peut-être un peu avant, j'ai eu l'occasion de les visionner, provoquant certes des cauchemars, mais qui ont aussi nourri mon imagination, un attrait pour l'étrange. Ce qui n'a rien à voir, je tiens tout de suite à le préciser, avec un goût pour le morbide. La réalité, hélas, regorge d'horreurs, pour le coup, bien dégueulasses. Des images et des scènes qui restent en mémoire, bien sûr, mais aussi des bandes-son. Disons des grincements, des frottements, des suintements, des bruits qui tranchent le silence et te font sursauter. Et puis des musiques, atonales, perturbant tes repères psychiques, utilisant des clusters de notes joués en même temps pour accroître le sentiment de terreur. Musique minimaliste, glaçante et répétitive pour maintenir la tension, ou encore des symphonies agrémentées de chœurs d'enfants et de femmes innocents, enfin innocents plus ou moins. Alors, auditrice, auditeur, ouvre maintenant ce portail au style gothique et pénètre dans cet univers musical horrifique, fantastique et cinématographique. Avec, pour débuter, un thème de John Carpenter, auteur mais aussi compositeur pour la plupart de ses films, qui, après Halloween et juste avant Escape from New York, New York 1997, et The Thing, réalise The Fog avec son phare, son brouillard maléfique et luminescent, ses marins fantômes sortant de l'eau tout assoiffés de vengeance, et bien sûr son thème musical.
Thank you. crucifix. Cette huit, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit.
C'est dans les rêves, ou plutôt dans les cauchemars, que tu peux croiser Freddy Krueger, avec sa main gantée et ses lames de rasoir au bout des doigts, crissant contre le mur pour s'annoncer à toi. Enfin, surtout si tu es un ado et que tu habites Elm Street. Dans ce cas, il te faudra affronter ta peur pour le vaincre, comme Nancy dans Les Griffes de la Nuit, ou Nancy dans Stranger Things face aux créatures du monde à l'envers. Bon, quand je dis le vaincre, pour un temps tout au moins. Freddy, Michael Myers, Jason, et dans le panthéon des croque-mitaines, il y a aussi Pennywise. Tu sais, ce clown sympathique, bien qu'aux yeux un brin pervers, dans le roman It, ou Ça en français, de Stephen King. Bon, Pennywise, c'est aussi une arachnide géante extraterrestre qui aime beaucoup les enfants, lesquels, s'ils veulent survivre, doivent se liguer et surmonter leur peur, là encore, car Pennywise, ça nourrit, évidemment. C'est ce que fera dans l'histoire le Club des Ratés, le groupe d'enfants qui se nomme ainsi en référence à la stigmatisation dont ils font l'objet, sans doute pour la retourner, de la part des autres ados, je dirais basiquement normaux. Club des Ratés ou Hellfire Club dans Stranger Things, là aussi, on peut s'amuser d'ailleurs à repérer toutes les références aux films de genre des années 80 contenus dans cette série actuelle et populaire. Allez, mets-toi dans l'ambiance sympathique d'un cirque amusant, d'une fête foraine old school, avec son clown à ballon rigolo. Certains films d'horreur sont aussi parfois des métaphores sociétales, comme dans les films de zombies de George Romero, comme The Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants, ou The Day of the Dead avec ses milices tendances virilistes et suprémacistes, prenant un plaisir malsain à massacrer toutes ces créatures. Dawn of the Dead, traduit en France par Zombie, réalisé en 1978, c'est le second volet de la saga. Ce film dépeint une société capitaliste, consumériste et aliénante, et pour le coup aliénée, avec ses morts-vivants poussant des caddies dans un hypermarché. dans lequel quelques survivants se sont réfugiés. Situation pour le moins anxiogène puisqu'ils sont littéralement assiégés par les zombies. Certains de ces réfugiés finissant d'ailleurs par se faire mordre, ce qui va engendrer de terribles dilemmes pour les autres survivants. Enfin, vous connaissez le principe. Alors, j'avais lu il y a très longtemps un interview de George Romero dans lequel il disait à peu près ceci, que le but n'est pas simplement de montrer de l'hémoglobine, même si ces films sont arrangés dans un registre gore, mais il s'agit aussi parfois, de manière plus ou moins détournée, d'amener le spectateur à réfléchir sur la façon dont on réagirait face à l'adversité, quand tout autour de nous tout s'effondre. Et nombre d'histoires aussi de Stephen King sont construites autour de ça. Par exemple, dans une interview, l'écrivain disait à ce sujet « Ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive quand certaines bonnes personnes, moi j'ajouterais ou mauvaises, se retrouvent dans une position complètement extraordinaire. J'aime les histoires au sujet de personnes normales dans des situations extraordinaires », nous dit-il. Revenons à nos morts-vivants, voici l'excellente BO de Zombie, signée Goblin, un groupe connu pour ses collaborations avec Dario Argento, à écouter en faisant tes courses par exemple. We'll be right back. Sans doute t'es-tu déjà essayé au Rubik's Cube, ce casse-tête en forme de cube dont il faut arriver à aligner les couleurs de façon à ce qu'à la fin il n'y en ait plus qu'une par face. Mais si tant est que tu sois parvenu à la solution, est-ce que cela t'a ouvert les portes de l'enfer, te propulsant dans un monde de ténèbres à l'ambiance SM, mais alors vraiment vraiment trash, où la souffrance finit par prendre le dessus sur la jouissance? Non? Si? Bon, tu me diras en aparté si tu as envie et que tu t'en es sorti, bien sûr. Je fais bien sûr allusion à Hellraiser, le pacte, premier volet de la saga, film réalisé par l'auteur du roman dont ce film est issu lui-même, Clive Barker, avec ses personnages terrifiants, les Cénobites, dirigés par Pinhead et sa tête cloutée, accompagnés de ses acolytes, adeptes eux aussi de piercing et de scarification extrêmes. Moi, par exemple, j'aime bien celui avec les dents qui claquent frénétiquement derrière une bouche sans lèvres. Et puis, il y a cette scène de résurrection d'anthologie où l'un des personnages revient à son apparence originelle en se gorgeant de sang de victimes humaines. Et puis, il y a ce thème composé par Christopher Young. En 1987, Dario Argento réalise Opéra. Dario Argento, c'est bien sûr le maître du giallo italien, avec Mario Bava, genre de thriller gore italien des années 70, mais qui a su évoluer vers un genre plus fantastique selon les périodes, avec de véritables films cultes comme Profondo Rosso, c'est-à-dire Les Frissons de l'Angoisse, Suspiria ou encore Inferno. Avec Opéra, on retrouve, comme souvent dans ses films, un tueur psychopathe qui fera tout, mais alors à sa façon très originale, pour que Betty, jeune actrice, obtienne le rôle principal de l'opéra, référence ici au fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. L'horreur se mêle dans l'histoire à l'ambiguïté des relations tueur-Betty, relations empreintes d'un certain sadomasochisme. Il y a notamment ces scènes fameuses, comme celle où des épingles maintiennent les yeux de Betty ouverts, l'obligeant ainsi à assister au meurtre, sans possibilité d'agir. Au moins, nous autres, derrière notre écran, pouvons-nous battre nos paupières sans risque de les déchirer. Et il y a cette scène des corbeaux dans le théâtre que je trouve aussi particulièrement marquante. C'est sur la musique magnifique d'épure d'opéra, composée par Bill Wyman et Terry Taylor, que s'achève cet épisode de Dernière Station avant Mutation, à moins qu'il n'y ait un morceau surprise caché. Fais attention à ne pas laisser tes pieds en dehors du lit cette nuit, à bien fermer la porte du placard de ta chambre et garde ton sang-froid, surtout si tu entends chuchoter à ton oreille. Je te dis à bientôt et d'ici là, fais de beaux rêves.
Grandima.